Ça arrive dans toutes les meilleures familles, j'ai un petit chat dans la gorge, mais pour la stratège en marketing et en communication, Anya Vousselette, l'EDI n'est pas le début du chemin. Elle dit que c'est l'affaire de tout le monde et que personne n'est exclu, y compris le mâle blanc caucasien en situation de pouvoir. J'aime beaucoup la façon qu'elle a approché ça. Or, dans le contexte de nos jours, qui est beaucoup plus difficile, bien plus difficile que jamais, avec la remise en question des politiques d'inclusion par Donald Trump au sud de la frontière, puis ça monte jusqu'ici, ben on peut se poser des questions. Où est-ce qu'on s'en va? Anya, ben, bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci. Merci de m'accueillir.
Ben on est très heureux de t'accueillir. Quel pronom et quel accord tu utilises, Anya? Féminin?
Féminin, oui, oui.
Alors, je vais citer, tu affirmes que l'EDI, équité, diversité, inclusion, ce n'est que le début du chemin. Quels sont, selon toi, les prochains défis à relever pour aller au-delà de ces politiques qui sont si contestées?
Ben, en fait, le problème de l'EDI, alors je sais que je le dis régulièrement puis que ça fait sursauter, l'EDI n'est pas inclusif, en fait.
Ah non?
Non, l'EDI n'est pas inclusif. Moi, je vais vous redonner la définition de l'inclusion.
D'accord.
Alors, la définition de l'inclusion, je vous la donne. Le concept d'inclusion affirme la place de plein droit de toute personne dans la société, quelles que soient ses caractéristiques, c'est-à-dire sans distinction d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'âge, etc. Alors, si on la reprend, ça veut dire qu'en fait, dans une société inclusive, chaque personne a sa place de plein droit. Et donc, le point d'entrée pour une politique inclusive ne sont pas les caractéristiques. En revanche, là où l'EDI a toute son importance, c'est que c'est le début du cheminement vers l'inclusion. Donc, on va le décrypter ensemble. Et EDI, équité, diversité, inclusion. Équité, on pose un socle d'équité pour tout le monde. Ensuite, diversité. Dans diversité, ce qu'on met quoi, en fait, en règle générale, c'est tous les espaces de discrimination, tous les espaces d'exclusion, toutes les communautés discriminées, et on va vers l'inclusion. Mais comme l'inclusion, c'est justement faire en sorte que chaque personne a sa place de plein droit, quelles que soient les caractéristiques, on peut donc dire que l'EDI n'est pas inclusive. Mais là où l'EDI a son importance, c'est que quand on commence une démarche d'inclusion, on doit d'abord rétablir le champ de force. Mmh. Donc il faut identifier les espaces d'exclusion. C'est hyper important, et c'est pour ça qu'on fait de l'EDI. Et puis aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que l'EDI est traité en finalité versus un moyen. L'EDI, c'est un moyen. Donc on part d'identifier les espaces d'exclusion, de rétablir le champ de force, mais ça exclut toutes les autres personnes. Mmh. Donc l'EDI, oui, en début, en tant que moyen et pas finalité, mais il faut aussi qu'il y ait un autre arrimage qui se mette en place. On ne peut pas faire que de l'EDI. Si on ne fait que de l'EDI, on exclut plein de gens, donc on repart sur la discrimination positive, mais on exclut une partie des gens, donc on n'est pas inclusif.
Et ça crée donc des mécontentements. Tu insistes sur le fait que l'inclusion donc doit concerner tout le monde, sans exclusion, y compris ceux en position de pouvoir. Ben, comment convaincre les dirigeants que l'inclusion, c'est un enjeu collectif et non pas une contrainte?
Aujourd'hui, quand on parle inclusion, on parle d'EDI, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, je ne comprenais pas pourquoi, quand on parlait d'inclusion, on parlait d'EDI. Donc, j'ai fait une formation. Et en fait, quand vous regardez, il y a plein de formations en EDI. Mmh. Okay, il y a aussi plein de personnes qui ont été nommées en EDI, mais pas en inclusion. Donc, les personnes en position de pouvoir, elles ont essayé pendant 3, 4, 5, 6 ans de se dire, bon, on va faire des efforts. Elles voient qu'au final, il n'y a pas de changement. Parce qu'en fait, en n'appliquant que de l'EDI, en ne faisant que ça, on exclut une partie des gens. C'est eux qui sont en situation de pouvoir. Attention, on les exclut de l'équation. Mmh. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met les gens sous tutelle. Vous voyez? Quand on vous met sous tutelle, vous ne vous sentez jamais légitime. Je vous répète, le concept d'inclusion affirme la place de plein droit de toute personne. Ça veut dire que ces personnes-là ne se sentent pas légitimes, elles ne prennent pas leur place, en fait, parce qu'elles sont toujours dans la case diversité. Et les personnes en situation de pouvoir ne leur font pas de place, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça que, oui, l'EDI, mais il faut aussi qu'on mette en place une structure qui va vers l'inclusion.
La semaine dernière, je recevais quelqu'un ici qui parlait d'EDI puis qui disait quand même qu'il y a des résultats de ces politiques-là. On parlait de 42%, si je ne me trompe pas, de meilleure productivité au travail grâce à ces politiques-là. Il y a quand même des bons côtés.
Il y a quand même des bons côtés, mais il y aura toujours des personnes pour vous dire « Ah oui, mais ça ne sert à rien ». Ah bah. Il y aura toujours... Non, mais il y a tout... En fait, le problème, c'est que ça exclut quand même une partie des gens. Oui. Et les gens que ça exclut, c'est effectivement l'homme caucasien en situation de pouvoir ou des personnes qui sont très, très standards, très normées. Mm-hmm. Et ces gens-là, se sentant exclus, vont toujours aller combattre. Alors que si ces personnes... Quand on fait l'inclusion, on part du principe que chaque personne a sa place, quelles que soient ses caractéristiques. Donc, on ne pourra plus remettre en cause une personne du fait de son orientation sexuelle, de son identité de genre. Mais ça veut dire qu'il y a comme un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que la personne en position de pouvoir va se rendre compte qu'en fait, la personne, même en situation de handicap, elle a les mêmes droits qu'elle, en fait. Mmh. C'est pas évident à faire. Et puis, la personne qui a une orientation sexuelle différente va se dire, mais en fait, j'ai les mêmes droits. Mais comment on fait si à chaque fois, on nous met dans une case EDI et qu'on est toujours sous tutelle sur le bien vouloir de quelqu'un?
Oui. J'aimerais t'amener sur quelque chose que tu mentionnes beaucoup dans ce que tu écris, parce que, bon, on a fait un petit peu de recherche. Tu parles beaucoup de l'espoir chez les jeunes.
Ah oui. Alors moi, ce que j'ai remarqué, parce que moi, ça fait quelques années, en fait, moi, je suis partie de l'interculturel, parce que moi, je suis immigrante, donc il a fallu quand même, il y a eu comme un clash culturel, il a fallu que je me mette à niveau, donc je suis partie de l'interculturel. Ensuite, j'étais vers l'inclusion, puis là, je me dirige vers l'inclusion, vers la durabilité sociale, sociétale, parce que c'est quelque chose de très, très global. Mmh. Je me suis rendu compte que les jeunes, ils ne sont pas du tout comme nous, parce que nous, on n'a pas été élevés de façon inclusive, hein, très clairement. Mais quand vous regardez les sociétés, par exemple, qui ont été créées il y a à peu près 10-15 ans, eh ben déjà, il y a le mouvement vegan. Alors, le mouvement vegan, c'est des personnes qui mettent le bien collectif au cœur de leur business et le respect du vivant. Eh bien, automatiquement, ces gens-là que je fréquente, ils sont inclusifs, en fait. Vous vous rendez compte?
Oui.
Voilà. Donc, toutes les entreprises qui ont été créées, tous les milléniaux, là, les fameux milléniaux là, qui ont entre 30 et 45 ans, eux, ils ont construit leur business avec déjà une posture inclusive, une posture qui va tant vers le bien collectif versus individualiste. Et tous ces gens-là, moi j'en connais plusieurs, eh bien ils sont inclusifs, ils sont ouverts, ils pensent à la planète, ils pensent aux autres. Et c'est beaucoup plus difficile pour des entreprises qui sont déjà installées en fait.
Là, je vais me faire l'avocat du diable,
oui.
Si tu me permets. J'ai lu ce week-end un sondage auprès des jeunes britanniques, mais on dit que ça se répercute pas mal partout de la génération Z. On parle des 13 à 27 ans, qui, en fait, la moitié d'entre eux semblent favoriser un leader politique autoritaire, dirigeant fort, qui pourrait contourner le Parlement et les élections. En fait, c'est un sondage qui a été produit par Kraft pour le Channel 4. Est-ce que les jeunes sont vraiment aussi ouverts qu'on le croit?
En fait, il y a deux catégories de jeunes. Là, je te parlais des millennials.
Les millennials, oui.
On s'est rendu compte que la génération Z, celle d'après, effectivement, elle a tendance à être des fois même masculiniste, plus sexiste, etc. Mais je pense qu'ils naissent dans une société qui est très divisée, très polarisée. Ce qui n'était pas le cas des millennials.
On a vraiment du travail à faire. Hein?
Ben oui, puis les jeunes, eux, ils sont jeunes. Ils vont aller vers, entre guillemets, les signes extérieurs de power, en fait.
Les influenceurs.
C'est ça. Ouais. Ils vont aller, ils ne se rendent pas compte de la profondeur des choix ou de leur posture. Ils sont jeunes encore. Et donc, je pense qu'il est important pour nous, là, même pour nous de ma génération, de pouvoir poser les bases de cette nouvelle société. Parce qu'ils arrivent dans une société qui a complètement explosé depuis 2020. On est à l'aube d'un gros changement économique, social, sociétal, etc. Et ils arrivent sur une société polarisée, donc forcément, ils choisissent leur camp. Ils n'ont plus l'habitude d'échanger, les jeunes. Mmh. Hein? Ils écoutent les influenceurs, ils vont droite à gauche.
Agnès, ils sont là. Mon Dieu, je pourrais vous écouter longtemps. On va certainement devoir te réinviter.
Avec grand
plaisir. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui.
Merci. À bientôt.
À bientôt.